Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits. Nous allons parler de stratégie, de guerre économique, de puissance, puissance économique, puissance des entreprises également. Ce sont des thèmes que nous abordons régulièrement à Conflits et qui sont évidemment extrêmement importants. Pour traiter de ces thèmes, je reçois Raphaël Chauvency. Bonjour. Merci
Bonjour.
D'avoir accepté notre invitation. Vous êtes militaire, vous êtes officier des troupes de marine. Vous êtes actuellement détaché au 3e brigade des commandos des Royal Marines en Angleterre et vous êtes également professeur à l'école de guerre économique où vous dirigez le module stratégie de puissance, l'école de guerre économique que nos éditeurs connaissent bien puisque nous publions régulièrement des articles de certains de leurs professeurs comme Christian Arbulot ou Olivier de Maison Rouge. Et vous avez publié plusieurs ouvrages dont récemment alors un qui vient de paraître aux éditions VA Éditions, Quand la France était la première puissance du monde, qui traite de la période du XVIIIe siècle sous le règne de Louis XVI, et un autre ouvrage également, et c'est sur celui-ci que nous allons fonder cette émission, Former des cadres pour la guerre économique, l'itinéraire de Robert Papin, des commandos à HEC entrepreneurs, qui est paru également chez VA Éditions. Alors, le titre de votre ouvrage est assez explicite, « Former des cadres pour la guerre économique ». On va y revenir, ce sera le thème de cette émission. En revanche, Robert Papin, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu moins connu de la part du grand public. Et le livre que vous consacrez est une sorte de biographie intellectuelle et pratique de ce qu'a fait Robert Papin, qui a un parcours assez atypique. Il a commencé sa carrière dans l'armée et ensuite il a été un des fondateurs, un des cadres d'HEC entrepreneurs en développant toute une méthode de stratégie et de formation des cadres. Ce parcours est assez atypique et vous montrez en revanche qu'il est important et que c'est en s'appuyant sur sa formation et son expérience de militaire qu'il a pu développer cette réflexion sur la formation des cadres. En quelques mots, Raphaël Chauvency, qui est Robert Papin, et pourquoi est-ce que vous avez voulu lui consacrer un ouvrage ?
Alors, Robert Papin est une de ces pépites que la France sait produire et ne sait pas reconnaître. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, c'est une personne qui a eu un parcours atypique, donc je vais brosser très rapidement. Robert Papin a commencé sa carrière, si je puis dire, comme étudiant en maths sup, maths spé, et après avoir signé une pétition contre la guerre d'Algérie, pour faire comme tout le monde, il a eu honte. Et d'un seul coup, il s'est mis à penser à cette Algérie, il s'est mis à penser à la guerre, il s'est mis à penser aux problématiques de commandement et a décidé de lâcher ses études à ce moment-là pour rejoindre une unité combattante. Donc cette démarche initiale va marquer ensuite toute la suite de son parcours. Robert Papin, qui est quelqu'un d'extrêmement volontaire, puisqu'il est là, j'ai la chance d'être très souvent en contact avec lui. Robert Papin s'engage donc à résilier son sursis, choisit la voie la plus dure, c'est-à-dire la voie des troupes d'élite, la voie des commandos parachutistes. Il va réussir à finir premier lors de ses EOR, sa formation d'officier de réserve à l'époque. Il rejoint finalement le 11e choc, dans les commandos de choc. Il découvre lors de ce passage de chef de section, donc de jeune lieutenant, il découvre ce qu'est le commandement des hommes. Il découvre que dans la formation universitaire qu'il avait commencé à acquérir, il lui manquait justement cette perception humaine qui va le marquer très très durablement. Robert Papin est également quelqu'un qui a beaucoup de caractère, de la chance aussi, puisque au moment des affaires d'Algérie, donc en 1961, au moment du putsch des généraux, le 11e choc est sur le point de basculer dans la sédition, et Robert Papin doit être le premier, normalement avec sa section, à sauter sur Paris. La chose ne se fera pas. Robert Papin, du coup, ne finira pas en prison. En revanche, un incident de tir va lui provoquer une forme de surdité, moins d'une oreille, qui aurait dû entraîner sa réforme. Et là, le destin va le rattraper, puisqu'il va être recruté par le chef de nos plongeurs de combat, qui demande à Robert Papin, qui a une formation scientifique, s'il serait capable de développer un appareil sous-marin. Robert Papin accepte, se retrouve parmi ses troupes d'élite, les plongeurs de combat, qui n'acceptent que des militaires professionnels, des gens qui ont combattu en Indochine, en Algérie, la crème de la crème de nos forces armées, et sans aucun moyen, il va réussir en quelques mois à créer cet appareil. Et il insistera énormément sur ce passage. Ce qu'il a compris à ce moment-là, c'est qu'un chef ne pouvait rien faire sans la participation de ses hommes. Au début, Robert Papin a pas mal d'idées. Il est capable de conceptualiser ce qu'il a en tête. Malheureusement, sa traduction pratique ne suit pas. Et c'est par le dialogue avec les hommes qui vont être les utilisateurs de cet appareil qu'il va finalement aboutir. Donc après ce préambule un petit peu long, qui est important pour comprendre la pensée de Papin, Robert Papin va finir par quitter l'armée sur les conseils de son chef, qui lui dira que la guerre d'Algérie est terminée et qu'il risque de s'ennuyer maintenant dans une armée de temps de paix, qu'il est un briseur de règles et qu'il faut qu'il parte ailleurs. Robert Papin suit cet itinéraire. Je vous épargne la somme astronomique de formation académique qui sera accumulée, donc agrégation, divers doctorats, etc. Et toujours marqué par cette expérience militaire, Robert Papin se dit qu'il veut transmettre ce qui peut l'être au monde économique. Et il va élaborer une véritable ingénierie de formation, une nouvelle méthode pragmatique à laquelle il va penser pendant plusieurs années, toute sa phase d'étudiant. Il va finir par enseigner. Commence à enseigner, il affine un petit peu son projet. Il va partir enseigner pendant un an à Stanford, où il réfléchit encore davantage sur son projet, qu'il va soumettre à des entrepreneurs américains, afin d'avoir une idée de ce que ça représente. Ces Américains qui seront enthousiasmés, qui lui proposeront des fonds pour appliquer ses idées aux États-Unis, ce que Robert Papin refusera, puisqu'il s'était engagé à rentrer en France, et qu'il veut que ses idées bénéficient aux entreprises françaises, aux chefs d'entreprise français, aux entrepreneurs français. Alors, quelles sont ces idées ? Évidemment, très simplement, Robert Papin s'est rendu compte qu'une formation académique et théorique, finalement, ne correspondait pas aux besoins des entreprises. Son axe de recherche est vraiment d'avoir des entrepreneurs qui puissent être des guerriers économiques dans un monde concurrentiel extrêmement dur. Et pour cela, les entrepreneurs ont besoin de quoi ? Ils ont besoin d'une formation qui soit essentiellement pratique. Ils ont besoin également d'un savoir-être, ils ont besoin de savoir-faire, cela va de soi, et d'une vision.
Dans les années 1970, donc c'est vraiment beaucoup de transformation. On est dans un système, enfin un peu moins pour la France, un système éducatif qui commence à être massifié, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont peu de formation supérieure, notamment les générations les plus anciennes, qui sont dans les années 1950. Donc, quand il propose ses méthodes pédagogiques ou sa réflexion pédagogique, on est aussi à une époque où il y a peu de gens qui accèdent au supérieur. Le bac est encore quelque chose qui est peu attribué. Donc, ça s'adresse il pense aussi à avoir une formation continue pour des gens qui seraient déjà dans le monde de l'entreprise et qui devraient se former pour s'adapter et pour parfaire leur formation. Voilà. Est-ce qu'il pense également à une formation continue pour des gens qui seraient déjà dans l'entreprise et qui voudraient parfaire leur formation ?
Alors, il a pu y penser, mais l'objectif de Robert Papin était vraiment de former, a priori, de jeunes entrepreneurs. Donc, des gens qui aient déjà toute la formation théorique nécessaire, bien évidemment, mais dont il voulait faire des entrepreneurs en l'espace d'un an. En l'espace d'un an, en faisant quoi ? En leur confiant en pratiquant ce qu'il appelait, les formations-actions. Et ces formations-actions qui consistent en missions, en véritables missions terrain, qui ne sont pas des stages, qui ne sont pas des périodes d'observation, qui sont véritablement des périodes au service d'entreprise. Donc ces missions terrain qui vont prendre la forme de missions de vente, de missions de marketing, etc., etc. Je pourrais détailler tout à l'heure si vous le souhaitez. Mais Robert Papin n'a pas cherché à former en continu les entrepreneurs. Il a vraiment cherché à former de jeunes entrepreneurs.
Alors ça, c'est effectivement extrêmement intéressant et vous l'évoquez dans votre ouvrage, et ce qui évoque donc une autre figure importante qui est Georges Doriot. Robert Papin va aux États-Unis, il est dans la méthode DECA qui est abondamment fait dans les écoles de commerce. Il se rend compte que c'est intéressant mais qu'il y a quelques limites et donc il met en place une autre méthode qui est ce qu'il appelle lui-même les formations actions. Comment est-ce qu'il passe de l'un à l'autre et comment il découvre aussi la pensée de Georges Doriot sur la méthode DECA ?
Alors, Georges Doriot, qui est également un grand, grand méconnu en France, alors qu'il est, si je puis dire, quasiment une star aux États-Unis, Georges Doriot a été effectivement le fondateur de la méthode DECA. La méthode DECA qui consiste à quoi ? Qui consiste à soumettre aux étudiants un problème rencontré par une entreprise, sous la forme d'un document détaillé d'une quinzaine de pages. Une bibliographie indique les ouvrages, les chapitres à compulser pour résoudre le cas. Après, un travail individuel, les équipes se constituent pour élaborer une solution, et le rôle du professeur, en fait, n'est pas de donner un cours, mais d'animer le débat entre équipes. Ce qui était déjà une révolution en termes d'enseignement, une révolution qui a commencé, que Doriot a commencé à importer en France très discrètement dans les années 30 et qu'il a développé ensuite dans les années 50-60. Cette méthode, effectivement, par rapport à un enseignant purement théorique, présente un grand progrès, mais Robert Papin, qui l'a pratiqué, qui l'a reçu lors de sa formation, Robert Papin trouve qu'elle est insuffisante, qu'elle est même dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle imagine que chaque situation a une réponse préformatée. Elle peut donner l'illusion aux étudiants, qui sont censés être de futurs entrepreneurs, de futurs cadres dirigeants, qu'ils peuvent avoir une solution toute faite pour chaque problématique. C'est sans doute le reproche principal qu'il va faire à cette méthode, avec le reproche également de ne solliciter que l'intelligence logico-mathématique que Robert Papin critiquera lorsqu'elle est utilisée exclusivement.
Alors que dans la formation action, ce qu'il propose, c'est véritablement une immersion, et vous le montrez très bien, sur des périodes extrêmement courtes. Donc ça les oblige, et d'ailleurs, comme lui-même a dû faire son sous-marin sur un temps très court, ça les oblige à vraiment travailler dur et à travailler avec les équipes constituées.
Exactement. Alors, il ne faut pas d'équipe constituée. Robert Papin voulait également que chacun soit capable de travailler dans n'importe quel environnement. C'est-à-dire que les équipes constituées qu'il va faire seront des équipes de trois, des trinômes, qui seront rebattues à chaque nouvelle mission. Et ces missions courtes, qui dureront de 2 semaines à quelques semaines, à chaque fois, obligent les étudiants à se mettre clairement en déséquilibre, puisqu'ils n'ont pas le temps, objectivement, de faire ce qu'on leur demande. Ils sont obligés de s'investir extrêmement pour parvenir à leur fin. Ils sont obligés également d'être, ils sont responsabilisés, pardon. Pourquoi? Puisqu'ils se retrouvent dans de véritables entreprises. Des entreprises qui ont des objectifs, des entreprises qui ont des salariés, des entreprises qui ont des contraintes, parfois qui sont en difficulté, et donc ils doivent être capables de leur apporter quelque chose directement.
Et donc ça, il commence à le mettre en place à HEC, puisque c'est là qu'il travaille en tant que professeur. Et donc, il forme de plus en plus d'étudiants. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des chefs d'entreprise célèbres ou dont on parle beaucoup qui sont passés par les méthodes de Robert Papin?
Alors, il faut savoir que donc HEC Entrepreneur, qui a été fondé par Robert Papin, qui a développé ses méthodes, HEC Entrepreneur, effectivement, était une véritable pépinière d'entrepreneurs pour la France, s'il n'est pas toujours très connu, et que sur le millier d'étudiants que Robert Papin a formés, 50% d'entre eux occupent aujourd'hui des places de directeur général ou de président-directeur général. Ce qui veut dire qu'effectivement, dans notre environnement économique, parmi nos grands dirigeants économiques, de très nombreux sont ceux qui sont passés par le moule d'HEC Entrepreneur et qui ont bénéficié de la pédagogie de Robert Papin.
Et ça suppose également une sélection intensive des personnes. C'est un élément évidemment qui est essentiel dans la pédagogie ou dans l'enseignement supérieur, c'est qu'on ne peut pas prendre tout le monde et qu'il faut bien sélectionner ceux qui seront les plus aptes à recevoir l'enseignement et ensuite à développer leurs qualités.
La sélection, alors Robert Papin attachait une importance énorme à la sélection, mais une sélection qui ne se faisait pas uniquement sur des bases universitaires, des bases de savoir qu'il considérait comme acquises, puisqu'à partir du moment où les gens qui se présentaient pour cette formation d'élite avaient déjà un bagage intellectuel extrêmement solide, ce qui faisait la différence était les qualités humaines. Robert Papin cherchait, parmi les personnes qu'il formait, des qualités humaines, ce que j'entends et ce qu'il entendait par qualité humaine, c'est-à-dire bon évidemment une forme d'enthousiasme si l'on veut, toutes les qualités d'ouverture d'esprit, de réactivité, ce qu'on peut attendre d'un chef, mais également la volonté d'entreprendre, la capacité de prendre des risques, la capacité à motiver, à se motiver, à motiver les autres, la capacité à assumer ses actes, puisqu'un entrepreneur n'est pas uniquement une personne qui est jetée dans le grand bain du marché, mais également, si je puis dire, charge d'âme, puisqu'il y a derrière des employés qui vivent de son entreprise. Et donc, en fait, la sélection faite par Robert Papin englobait tout cet ensemble. Et enfin, il insistait dessus, dès que les entrepreneurs qu'il formait ne voulaient pas former des personnes qui soient exclusivement attirées par le fait de faire de l'argent, par le fait d'entrer dans le monde des finances, mais par le fait de construire quelque chose, construire une entreprise avec des hommes, construire quelque chose pour eux-mêmes, bien sûr. Ce sont des personnes qui sont ambitieuses, sinon elles ne seraient pas venues le voir. mais construire également quelque chose pour leurs employés et quelque chose pour leur pays. Et Robert Papin parlait également de patriotisme.
Alors, on va y arriver justement parce que c'est un élément qui est extrêmement important. On est là donc dans le cadre de la guerre économique et je vous rappelle que vous êtes professeur à l'école de guerre économique qui est basée à Paris. Ce patriotisme, on le comprend assez facilement dans l'armée. On suppose que les militaires sont quand même patriotes et défendent leur pays. On a parfois du mal à le comprendre dans le sens de l'entreprise et à voir qu'un chef d'entreprise, parce qu'il crée des emplois, parce qu'il crée de la richesse, parce qu'il développe des produits innovants, contribue aussi au développement de la puissance de son pays et contribue à ce qu'on appellerait un bon patriotisme, un sain patriotisme, c'est-à-dire la puissance de son pays, sans être borné évidemment et sans rejeter les autres pays, mais tout simplement une légitime fierté du pays pour lequel on travaille. Pourquoi est-ce qu'il est aussi difficile de lier comme ça ce patriotisme dans le monde de l'entreprise, alors qu'on l'entend assez facilement dans le monde militaire?
Je crois qu'en France en particulier, puisque la situation serait différente dans les pays anglo-saxons, serait encore différente au Japon, je ne parle pas de la Chine, bien évidemment. La situation est due en France, je pense, une opposition et une méfiance entre le monde entrepreneurial et l'État. Et par patriotisme, il ne faut pas comprendre une idée, une idéologie politique quelconque. Je pense que lorsqu'on parle de patriotisme économique, donc celui qui pourrait concerner les entreprises, il faut penser stratégie. Les stratégies à un niveau global et le niveau plus important en termes de stratégie et le niveau national dont les entreprises françaises en règle générale se méfient. Les grilles de lecture qui sont enseignées en France, qui sont enseignées à la plupart de nos dirigeants, qui sont enseignées depuis plusieurs décennies, sont les grilles de lecture de l'économie de marché. C'est l'économie de marché qui veut, si je résume très rapidement, qui part du principe que la concurrence est libre, ouverte, et honnête. Alors que c'est faux. C'est faux, et la crise actuelle l'a révélé à ceux qui auraient pu en douter encore, et que l'économie est inextricablement liée aux problématiques de puissance. Et que le monde économique n'est pas un monde apaisé, d'échange, un monde un petit peu comme les Français adorent les concours administratifs, où le meilleur, finalement, selon certaines règles, va remporter la palme. Et bien, le monde économique ne se passe pas comme ça. Le monde économique est un lieu de guerre systémique. C'est-à-dire que chaque pays, chaque entreprise, se retrouve dans une espèce de lutte permanente. On s'est souvent trompé sur la notion de guerre économique en disant qu'est-ce que c'est que la guerre économique ? C'est une concurrence exacerbée. Ce n'est pas faux, mais c'est très très insuffisant. Et si on utilise cette simple définition, on s'expose à ne rien y comprendre. La guerre économique, elle, est systémique aujourd'hui. C'est-à-dire que les puissances utilisent l'économie. Les États utilisent l'économie pour construire leur puissance. Alors, les entreprises sont partie prenante de cet état de fait sans toujours en être conscientes. Plus ou moins dans certains pays. En France, non seulement elles n'en sont pas conscientes, mais elles le refusent, encore une fois, puisqu'elles se méfient d'un État qui est aussi sans doute un de ce monde qui leur prélève le plus d'argent. Donc, il y a vraiment cette méfiance, une question de grille de lecture, la grille de lecture libérale de l'économie marché d'une part, et la méfiance entre le monde entrepreneurial et le monde de l'État d'autre part.
Quelle définition pourrait-on donner d'un chef, Rachel Chauvency, et donc d'un bon chef, évidemment? Qu'est-ce qu'ont les qualités attendues d'un chef, que ce soit dans le domaine militaire ou dans le domaine de l'entreprise?
Je pense que la première qualité d'un chef, c'est la responsabilité. La responsabilité vis-à-vis des actes qui sont posés, la responsabilité vis-à-vis des objectifs à atteindre, et la responsabilité vis-à-vis de ses hommes. Je crois qu'un chef également est quelqu'un qui doit être capable de prendre des risques. Dans le monde militaire, cela va de soi. Dans le monde économique aussi. Je pense que dans un contexte, j'ai parlé de guerre économique systémique, je pense que dans un contexte pareil, il est impossible de se réfugier systématiquement derrière un principe de précaution qui finalement n'est qu'un repli sur soi et qui empêche de saisir des opportunités ou alors de contrer certaines attaques. Je pense qu'un chef est également quelqu'un qui n'oublie pas qu'avant toute chose, il commande des hommes.
Même le terme de chef est d'ailleurs assez peu employé, sauf dans le domaine militaire, mais dans le domaine de l'entreprise, on parle de leader, de manager, on parle de leadership. On n'ose plus trop employer le terme de chef.
Non, mais est-ce que le terme de chef en tant que tel est forcément nécessaire. Je ne sais, dans le monde de l'entreprise, je ne sais pas la chose, oui. Le terme, si le terme braque le monde civil, je n'en ferai pas un combat. Pourquoi ? Puisque le terme de chef dans le monde civil a souvent été assimilé à une structure extrêmement pyramidale. Alors, un vrai chef n'est pas celui qui se place au sommet d'une pyramide et qui contrôle tout. Un vrai chef est également celui, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit qu'un chef était celui qui se souvenait qu'il commandait des hommes, donc c'est quelqu'un qui sait déléguer également. Donc si dans le monde civil, on préfère parler de manager ou de leader, peu importe, ce qui compte, c'est bien le fond. Et le fond, c'est savoir décider, savoir assumer, mais savoir déléguer également.
Et ce que vous montrez justement dans votre ouvrage, c'est que une des qualités d'un chef, d'un bon chef, c'est de savoir s'entourer de gens qui sont brillants, voire qui sont un peu dérangeants parce qu'ils ont des idées ou une manière de faire qui fait un petit peu bouger les cadres établis. En tout cas, savoir s'entourer de gens compétents et non pas de gens dociles.
Oui, tout à fait. Et ça revient à ce que je disais, on ne peut pas déléguer à quelqu'un qui est extrêmement docile, quelqu'un qui est trop docile et quelqu'un qui ne saura pas prendre lui-même d'initiative, qui ne saura pas réagir en cas d'urgence ou en cas de nécessité, qui ne saura pas conseiller son chef, qui ne saura pas ouvrir d'autres voies. Et c'est, j'en reviens à Robert Papin, dans sa vision du chef, c'est pour ça que dans les missions terrain qu'il confiait à ses étudiants, il essayait de couvrir le spectre le plus large possible en remixant les équipes pour que des gens dits très différents puissent apprendre à travailler ensemble et dans des domaines aussi différents que la création d'entreprise, la gestion d'un dépôt de bilan, la cession ou l'acquisition d'une entreprise en bonne santé, la stratégie de développement, la vente, la communication, et chacun étant autonome, se retrouvant en situation de décider.
Et puis, il y a également la question de la prise de risque, et donc savoir, enfin, le risque et l'incertitude, et savoir gérer ce genre de choses.
Tout à fait, un chef d'entreprise, un entrepreneur, se retrouve en permanence dans un monde incertain. Alors, l'économie a horreur de l'incertitude. Donc évidemment, comme le militaire d'ailleurs, le chef militaire va chercher à dissiper au maximum l'incertitude, l'entrepreneur cherchera à faire la même chose. Mais quoi que l'on fasse, quelle que soit la qualité de l'information, et on peut parler de management stratégique de l'information qui est aussi importante pour les militaires que pour les entreprises, quelle que soit la qualité des capacités d'anticipation des entrepreneurs, il y a toujours un moment où vient le grain de sable, l'événement épigénétique si l'on veut, que rien ne laissait prévoir et qui en fait révèle les véritables chefs. Et la crise actuelle que nous vivons, je pense que la crise sanitaire touche à sa fin, mais la crise économique qui va prendre sa suite, va révéler les véritables entrepreneurs, les véritables leaders, puisque dans une situation très compliquée que personne n'avait véritablement prévue, eh bien, il va falloir trouver des voies neuves et accepter également le fait que cette libre économie de marché sur laquelle toutes nos grilles de lecture ont été fondées, en fait, n'existe pas. N'existe pas, puisque cette libre économie de marché n'est que finalement le lieu d'expression de la puissance et du choc des puissances.
Et quand on parle de puissance, on sous-entend la notion de volonté de puissance. Encore faut-il donc être volontaire, vouloir fonder une entreprise, vouloir la développer. Cette notion de volonté, comment est-ce qu'on peut la développer dans la formation des cadres, des chefs, des managers, comment est-ce qu'on peut les aider à développer cette puissance et à l'orienter vers le bien, c'est-à-dire non pas une puissance pour dominer les autres, mais pour contribuer au développement de leur entreprise.
Alors, la volonté, déjà, cette volonté de puissance, reste nietzschéen, cette volonté de puissance déjà d'un entrepreneur existe évidemment au départ, je pense, sinon on se tourne vers autre chose. Comment la tourner vers le bien ? Robert Papin, lui, commençait sa formation. Sa formation débutait par un saut en parachute, ce qui permettait déjà de tester un petit peu ce que chacun avait dans le ventre, tester la volonté de chacun. Ensuite, eh bien, c'était, j'ai pas de responsabilité, mais c'est en développant ce sens de responsabilité. Et je pense que l'ingénierie de formation de Papin, avec ses missions terrain, ses formations actions, qui mettait ses étudiants directement au contact des employés, permettait de leur faire prendre conscience qu'ils allaient par la suite diriger pas seulement une entreprise, mais des hommes derrière. Et je crois que c'est un des gros défauts de notre système de formation aujourd'hui, qui est d'oublier ces hommes, de se limiter peut-être trop exclusivement à une vision financière, une vision de marché, qui en fait provoque et provoquera, je pense, de plus en plus des troubles sociaux assez difficiles. Ce que nous avions vu lors des Gilets jaunes est appelé à se renouveler, sans doute sous des formes différentes, dans les années à venir, dans un contexte de crise économique majeure. Et cela est dû à quoi ? C'est dû à un manque d'enracinement, finalement un manque de réalisme de nos élites, qui est pas, c'est des élites qui ne sont pas d'ailleurs elles-mêmes individuellement forcément responsables. C'est notre système de formation qui est responsable. Donc nous avons bien une responsabilité collective sur la formation de nos élites.
Et on pourrait parler, parce que vous évoquez une faillite du système de formation, on l'a vu avec l'exemple des certaines universités qui attribuent des 10 à tous les étudiants, c'est l'inverse de la sélection et c'est l'inverse également de développer les vertus de courage, de force, de persévérance chez les étudiants. Donc là, on n'est pas du tout dans la formation des futurs chefs.
On n'est pas du tout dans la formation des futurs chefs. Et également, alors, bon, ce sont d'autres problématiques, mais je pense qu'en France, il y a, je reviens sur cette notion de responsabilité, cette responsabilité du chef n'est pas toujours très bien perçue. Et au contraire, les postes de direction, les postes à responsabilité, sont trop facilement conçus comme des prébendes et non pas comme des charges.
Et est-ce que Robert Papin a eu une influence sur d'autres écoles ? Est-ce que ses méthodes pédagogiques ont été utilisées par d'autres ?
Alors, ces méthodes pédagogiques en France ont été utilisées assez ponctuellement, très 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 peu. Robert Papin est méconnu en France, si ce n'est totalement inconnu. En revanche, à l'étranger, il a eu beaucoup, beaucoup d'influence, puisqu'une université comme l'université d'Harvard a créé son nouveau programme, le programme Field, sur le modèle de la pédagogie de Robert Papin, et a revu entièrement son modèle de formation en décalquant son nouveau programme sur celui mis en place par Papin. À l'opposé, en Russie, alors pour la petite histoire, Robert Papin avait rencontré, il y a, à la fin des années 90, l'adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, dans le cadre d'un échange pour préparer la formation des futures élites russes. Alors cet adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, à l'époque, était un certain Vladimir Poutine, qui s'est retrouvé par la suite avec la responsabilité que l'on sait, qui a voulu former des élites russes, et les élites dont l'État russe a besoin, et qui pour cela a été extrêmement directif sur la formation, sur les écoles de formation des élites qui ont été mises en place, et il a exigé que ce soit les méthodes de Robert Papin qui soient mises en place. Et ce sont toutes ces méthodes, jusqu'au saut en parachute d'ailleurs, qui ont été transposées. Donc un modèle qui en France est méconnu, finalement a influencé les plus grandes écoles, les plus grands pays, comme les États-Unis et la Russie.
C'est assez coutumier, malheureusement, de voir des grandes inventions, que ce soit dans le domaine pédagogique ou dans le domaine technique, qui sont parfois davantage utilisées à l'étranger qu'en France, pays où elles ont été développées. Et aujourd'hui, la postérité de Robert Papin en France, est-ce que HEC continue à suivre les, enfin, HEC entrepreneur continue à suivre les modèles pédagogiques qu'il a développés ? Est-ce qu'il y a d'autres écoles qui s'en sont inspirées également ?
Alors HEC entrepreneur existe toujours aujourd'hui. Et Robert Papin a suivi une voie qui est très intéressante, puisque c'est d'ailleurs cette occasion que j'ai pu le rencontrer, en ayant de nombreux entretiens avec Christian Arbulo, qui dirige l'école de guerre économique aujourd'hui, qui crée le concept d'intelligence économique en France. S'est rapproché du coup d'une vision, il avait une vision très pragmatique, une méthodologie hors norme, sur laquelle nous pouvons revenir si nous avons le temps après, je suis passé peut-être un petit peu rapidement dessus, mais vraiment une méthodologie hors norme. Ce qui manquait peut-être, c'était une vision stratégique qu'il a trouvée avec Christian Arbulo. Et je pense qu'aujourd'hui, l'héritage de Robert Papin est véritablement porté par ce qui est devenu une véritable école de pensée en France, l'école de pensée de la guerre économique, qui reprend les méthodes pragmatiques de Robert Papin, mais en les remplaçant dans une vision plus large, une vision stratégique plus large. Une vision stratégique plus large qui est de savoir se libérer de ce carcan de la grille de lecture de l'économie de marché dont je parlais, se rappeler que, par exemple, la Chine ne s'est pas développée uniquement pour faire du commerce et que Xi Jinping a rappelé il n'y a pas très longtemps que son objectif était d'accroître la puissance globale de la Chine, une vieille grille de lecture qui permet de voir que l'Inde ne s'est pas développée en ouvrant son commerce, mais qu'elle interdit aux compagnies étrangères d'avoir plus de 75% de capitaux dans les communications, plus de 50% dans les dans les produits alimentaires, plus de 50% dans l'aviation, etc., etc. Comprendre que nous sommes dans un contexte particulier. Et je pense que l'héritage de Robert Papin, aujourd'hui, se trouve, alors sans doute encore en partie chez HEC Entrepreneur, mais se trouve grandement en tant qu'école de pensée, dans l'école de pensée de la guerre économique.
Et sa méthodologie, justement, puisque vous l'avez évoqué, donc le saut en parachute qui débute l'année, le fait de travailler en équipe sur des projets extrêmement courts, est-ce qu'il y a autre chose qu'il a développé qui contribue à faire son originalité?
Alors, son originalité, c'est que les étudiants reçoivent très peu de cours. Et que Robert Papin a créé une formation sans professeur, si je puis dire. Alors, je caricature un petit peu, j'exagère, il y a bien sûr des professeurs, mais peu d'entre eux, peu de cours théoriques, des intervenants qui n'étaient pas des professionnels de l'enseignement, mais qui venaient du monde de l'entreprise pour partager leur expérience. Et même ces expériences étaient très courtes, puisque les cours, en fait, avaient lieu soit très tôt le matin, soit très tard le soir, pour permettre aux étudiants de se consacrer à 100% à leur formation action au sein des entreprises.
Alors, faire intervenir des professionnels, c'est évidemment une très bonne chose. La difficulté, ça peut être l'aspect pédagogique, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas forcément transmettre ou évoquer correctement ce qu'eux-mêmes font. Donc, est-ce qu'il faut aussi former ces professionnels pour qu'ils puissent avoir de bonnes méthodes pédagogiques de transmission dans le cadre qui leur est donné?
Alors, je pense pas que si nous disons à un chef d'entreprise qu'il faut qu'il se forme avant d'intervenir dans une grande école, il accepte de le faire parce qu'il n'aura pas le temps de le faire. Je pense que ce que faisait Robert Papin, c'est qu'il choisissait des personnes qui avaient naturellement certains dons pédagogiques. Ensuite, ne pas oublier que ces intervenants, justement, professionnels, n'étaient pas là pour dispenser un cours théorique, mais pour apporter leur expérience, ce qui est tout de même différent. La contrepartie, c'est que les étudiants devaient avoir un sérieux bagage en arrivant chez HEC Entrepreneur et fournir une dose de travail personnel énorme, quitte à bénéficier du soutien de leur professeur pour poser les questions qui pouvaient leur sembler bloquantes.
Oui, parce que vous dites qu'il y avait à peu près 10 heures de travail par jour, du lundi au samedi. Donc, ça fait un volume horaire extrêmement conséquent.
Oui, tout à fait.
Et comme vous l'avez dit, effectivement, c'est une formation ce n'est pas une première formation, c'est une formation qui clôt la formation générale des étudiants. Donc, ils avaient déjà quelques années de formation générale, en licence ou équivalent, avant d'arriver à ce stade.
Oui, le but de Robert Papin était bien d'avoir une formation qui arrive pour couronner la formation académique de ses étudiants, afin d'en faire en un an des entrepreneurs capables d'intégrer le monde économique, aussi bien qu'en créant leur propre entreprise, qu'en l'intégrant en tant que cadre dirigeant.
Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Chauvency, d'avoir évoqué pour Conflit cette question de la formation des cadres. Je rappelle votre ouvrage « Former des cadres pour la guerre économique », l'itinéraire de Robert Papin, des commandos à HEC Entrepreneur, qui est paru chez VA Éditions. Conflit, nous avons deux autres podcasts qui traitent de thèmes proche, notamment un podcast avec François Baer sur la formation des chefs, et puis une émission avec Philippe Zieberzahn sur l'innovation et le management, et donc qui permettent comme ça d'apporter d'autres éléments d'éclairage ou d'approfondir certains points qu'on a pu évoquer au cours de cette émission. Merci beaucoup en tout cas d'être venu au micro de Conflit pour évoquer avec nous ces sujets ô combien importants de la formation des cadres et qui est évidemment fondamental dans ce contexte de guerre économique et de rapport de puissance.